Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Nous sommes à l'université Clermont-Auvergne, à Clermont-Ferrand, au centre de la France, où se déroule pendant 2 jours la 11e conférence internationale sur l'économie de la Chine. Conférence qui est organisée conjointement par l'Institut de recherche sur l'économie de la Chine au sein de l'université Clermont-Auvergne et par le Centre chinois pour les études économiques de l'université Fudan à Shanghai. Des chercheurs du monde entier sont là. Ils ont fait le déplacement de Chine, d'Australie, des États-Unis, de Singapour, de Grande-Bretagne ou encore d'Allemagne et même de France. Cette conférence coïncide avec le 19e congrès du Parti communiste chinois qui a démarré mercredi dernier à Pékin. À la fin de cette réunion, les 2300 dirigeants du PC chinois auront renouvelé le mandat du président Xi Jinping et conforté son pouvoir. Alors, à l'orée de ce nouveau mandat, où en est exactement l'économie chinoise? Où va-t-elle? Pourra-t-elle continuer longtemps à se développer au rythme officiel de 7%? Cette croissance se fait-elle de la même manière pour tout le monde? La lutte contre la pollution est-elle un frein à la croissance ou un facteur de réorientation de cette industrie chinoise? Telles sont quelques-unes des questions dont nous allons débattre avec les 3 invités que je vous présente maintenant. Bonjour Marie-Françoise Renard.
Bonjour.
Marie-Françoise Renard, vous êtes professeure à l'école d'économie de l'université Clermont-Auvergne. Vous êtes responsable de l'IDREC, l'Institut de recherche sur l'économie de la Chine, au CERDI, le Centre d'études et de recherche sur le développement international. Beaucoup de sigles, on essaiera de ne pas en abuser au cours de l'émission. Vous publiez l'an prochain un livre aux éditions de la Découverte dans la collection Repère, s'intitule tout banalement « L'économie de la Chine ». Vous êtes donc l'une des organisatrices de cette 11e conférence. Le titre que vous avez donné à cette réunion, c'est « La nouvelle croissance normale et le futur de l'économie chinoise ». Alors, la nouvelle croissance normale, c'est quoi ?
C'est l'expression utilisée par le président de nouvelle normalité pour indiquer les nouvelles voies que doit prendre l'économie chinoise. Donc, il y a quand même un changement dans les objectifs et dans les contraintes que subit l'économie chinoise.
Avec nous également dans ce bureau de l'Université Clermont-Auvergne, Barry Norton, bonjour.
Bonjour.
Barry Norton, vous êtes professeur d'économie à l'Université de San Diego en Californie. Vous publiez l'an prochain, vous aussi, un livre qui s'appelle « Économie chinoise, adaptation et croissance » aux presses de l'Université MIT, Massachusetts Institute of Technology. Vous avez commencé, vous, Barry Norton, à vous intéresser à la Chine il y a très longtemps, parce que, d'après ce que j'ai vu sur votre page internet de l'Université San Diego, vous avez commencé il y a plus de 40 ans, 1975, mais à l'époque, c'était pour vous intéresser à la littérature chinoise. Vous avez étudié la littérature chinoise. Qu'est-ce qui vous a conduit vers la Chine?
À ce temps-là, nous avons tous l'impression que la Chine est très mystérieuse et très distante, mais aussi qu'il a l'avenir qui est très, très impressionnant. Alors, à ce temps-là, j'ai eu l'occasion d'aller en Chine aux années 80 et je m'y suis allé.
Donc, vous avez continué à travailler sur ce pays. Vous avez été conforté dans vos sensations qu'il y avait un avenir merveilleux pour ce pays.
Alors, c'est tellement vrai. Il y avait plus que 30 ans que la croissance économique a dépassé le 10%, alors que maintenant, nous avons déjà entré dans la nouvelle période du normal.
De la nouvelle normalité dont parlait Marie-Françoise Renard. Je termine ce premier tour de table par vous, Éric Girardin, bonjour.
Bonjour.
Éric Girardin, vous êtes professeur d'économie à l'université Aix-Marseille, spécialiste de l'économie chinoise. Vous préparez pour bientôt un livre sur la bourse chinoise. Vous débattez au cours de cette conférence avec des économistes chinois qui sont présents en nombre. Qu'est-ce que vous pouvez leur apporter, vous, à ces économistes chinois? Et à l'inverse, que viennent-ils chercher ici?
Oui, alors ce qu'on essaye de leur apporter, c'est peut-être une vision un petit peu différente de celle qu'ils entendent quand ils sont dans leur pays d'origine, en particulier sur le ralentissement de la croissance. Et ce qu'eux nous apportent, c'est effectivement une vision de l'intérieur, de choses que, vu d'Europe, il est parfois difficile d'évaluer à leur juste proportion.
par exemple, un échange que vous avez eu depuis hier au cours de ces réunions qui vous a apporté quelque chose vu de l'intérieur ?
Ah oui, ben on va en reparler, c'est les échanges sur le ralentissement de la croissance en Chine. Est-ce que c'est durable ou est-ce que c'est permanent ?
Alors au cours de cette émission des reportages, bien sûr, nous irons rejoindre Heike Schmidt à Pékin qui nous parlera des voitures électriques chinoises et Angélique Forget à Shanghai qui nous parlera de l'essor de l'économie numérique. Le 19e congrès qui se déroule à Pékin est un congrès éminemment politique, mais il est aussi question d'économie. Au cours de son discours fleuve de plus de 3 heures, en ouverture de cette réunion, Xi Jinping a promis un traitement équitable aux entreprises étrangères. Il a promis de renforcer le rôle du marché, puis il a dit ceci.
À l'heure actuelle, la situation connaît tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des changements profonds et complexes. Le développement de notre pays se trouve dans une importante période stratégique dont les perspectives sont rayonnantes, tout en étant confronté à des défis très sérieux. Tous les camarades du parti doivent prendre de la hauteur pour voir loin, être conscient des dangers possibles, avoir un esprit à la réforme et à l'innovation en rejetant toute pensée sclérosée. Il faut conduire notre peuple multiethnique à la victoire décisive de la société de moyenne aisance et faire triompher le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère.
Qu'est-ce que c'est que la société de moyenne aisance dont parle le président chinois Marie-Françoise Ornard ?
Alors c'est le fait que la Chine soit désormais un pays à revenus intermédiaires, après avoir été pendant longtemps un pays très très pauvre. Elle est maintenant un pays à revenus intermédiaires, c'est-à-dire qu'il y a une élévation générale des niveaux de vie, et puis il y a la constitution d'une classe moyenne qui est beaucoup plus importante qu'elle ne l'était par le passé, ce qui a un impact bien sûr sur la consommation de la Chine. Mais cette évolution lui impose aussi un certain nombre de contraintes, et notamment de ne pas tomber dans ce que l'on appelle la trappe des pays à revenus intermédiaires, c'est-à-dire le risque qu'elle ne réussisse pas à décoller, on pourrait dire, et qu'elle reste un pays en développement. Cela s'est produit dans beaucoup de pays. Il n'est pas très facile pour les pays en développement de passer du stade de revenu pays à revenu intermédiaire au stade de pays développé. Et donc, pour cela, la Chine a un certain nombre d'étapes à franchir.
Éric Girardin, la moyenne aisance, c'est un statut enviable pour la Chine ?
La difficulté qu'on rencontre ici, c'est que la Chine est très grande. On n'a aucune autre expérience de pays d'une taille équivalente à laquelle on puisse comparer la Chine d'aujourd'hui. Donc c'est très très difficile de dire on va faire des comparaisons internationales au cours du temps pour des petits pays et essayer d'appliquer ça à ce qui va se passer en Chine dans l'avenir. Donc voilà notre grosse difficulté.
Vous dites qu'elle est immense. Est-ce qu'il y a une Chine ou est-ce qu'il y a plusieurs Chines ? Marie-Françoise Renard, vous nous parliez de classe moyenne. Tout le pays n'est pas encore au niveau de vie de ces classes moyennes.
Non, ben on peut dire ça quand même d'un grand nombre de pays. On peut dire ça aussi des États-Unis. Il y a une frange de la population. En Chine, il y a une partie importante de la population qui détient la majeure partie des richesses. Il y a une classe moyenne et il reste des gens pauvres. Et donc, c'est le cas dans tous les pays dans lesquels il y a des inégalités.
Balinotone, ces inégalités sont importantes en Chine ?
Oui, très importantes. Et aussi, il y a un très grand trou entre les citoyens urbains et les citoyens ruraux. Alors qu'il y a plus qu'une grande partie de la population ont fait la migration jusqu'aux grandes villes. Et ces gens-là n'ont pas des règles normales et l'information est très, très manquante pour ces gens-là.
Les migrants sont parmi les plus pauvres de la population chinoise. Le taux d'urbanisation en Chine jusqu'à maintenant était assez faible par rapport aux autres pays. Et donc les migrants sont allés dans les provinces côtières et dans les villes pour travailler dans les usines. Ils n'ont pas de statut légal, c'est-à-dire qu'ils ont très peu de droits, par exemple en matière sociale. Et donc leur position est très défavorable dans la société chinoise. Et le gouvernement est en train de faire une politique pour assouplir les règles de la migration et pour donner plus de droits aux migrants.
Alors l'image qu'on a de Xi Jinping et qu'il recherche en quelque sorte, c'est celle d'un homme à poigne, d'un pouvoir quasi absolu. Est-ce que ça se traduit dans la sphère économique, Éric Girardin, par un renforcement du rôle de l'État ?
Le rôle de l'État a toujours été important, même sans doute beaucoup plus important que ce qu'on ne croit. On a l'impression que l'activité privée peut-être à certains moments domine. En fait, il n'est pas sûr du tout que cette activité privée ne soit pas un petit peu par derrière, plus ou moins manipulée par l'État. Donc le renforcement, on part d'une situation déjà avec un grand contrôle de l'État. Est-ce que ça peut encore augmenter ? Ça reste à voir, mais le point de départ est de toute façon très élevé.
Mais on voit beaucoup d'entreprises chinoises intervenir sur la scène économique mondiale. Souvent, ces entreprises sont présentées comme des entreprises privées. Est-ce qu'elles le sont vraiment, Marie-Françoise Renard ?
La plupart sont des entreprises publiques. Les entreprises publiques en Chine ont été beaucoup restructurées. Donc maintenant, il y a des entreprises qui font des profits, qui sont très efficaces dans le domaine des nouvelles technologies, mais surtout dans le domaine pétrolier, etc. Et elles sont très présentes sur les marchés mondiaux, dans certaines banques aussi, mais pour la majeure partie d'entre eux, elles sont publiques. Alors, il y en a quelques-unes qui sont privées. Alibaba est une entreprise très connue qui est privée. Mais comme l'a dit Eric, il y a une très forte collusion entre le public et le privé. Et puis surtout, le gouvernement a les moyens de prendre une décision brutale. Par exemple, s'il y a trop de pollution alors qu'il va y avoir un événement international, eh bien, on ferme des usines pendant un mois. Il y a quand même très peu de pays dans lesquels on peut faire ça. Et donc, c'est un acte autoritaire. Si on estime qu'il y a eu trop de sorties de capitaux, eh bien, à un moment donné, on dit, les gens pourront pas sortir des capitaux. Donc, le gouvernement, ça veut pas dire qu'il va le faire tout le temps, mais il a les moyens de prendre des décisions brutales sur le secteur privé.
Est-ce que l'État est représenté dans les entreprises privées au sein de leur conseil d'administration ou dans la structure, Barry Norton?
C'est la partie communiste et pas l'État. Et ce que Xi Jinping, spécialement, veut, c'est que le parti communiste a un rôle officiel et ouvert dans la gestion de toutes les entreprises d'État. Et c'est un grand changement, un très grand changement. Depuis les années 80, le Parti communiste n'a presque aucun rôle dans la gestion. Mais ça s'est changé sur Xi Jinping.
C'est-à-dire que Xi Jinping veut faire intervenir le Parti communiste dans la gestion des entreprises, c'est ça?
Il veut que le Parti communiste joue un rôle beaucoup plus prominent dans la gestion.
Dans quel but?
Ça, c'est difficile à dire, pour des objectifs politiques, mais aussi parce qu'il a le concept de la rêve chinois. Il veut que la Chine était un acteur prominent sur l'étage mondial, et à lui, c'est les grandes entreprises d'État sont des instruments parfaits pour ça.
Le rôle de l'État, on mesure aussi à ce qui se passe dans le secteur industriel chinois. Exemple avec le marché automobile. Le marché chinois est le premier au monde. Et depuis 2015, le marché numéro 1 de la voiture verte grâce aux subventions publiques. À partir de 2019, le gouvernement imposera même des quotas qui mettent les constructeurs chinois et surtout étrangers devant des défis colossaux. C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Heike Schmidt à Pékin.
3, 2, 1!
Le compte à rebours est enclenché. À partir de décembre, la ES8 sera en vente. C'est le dernier né de la start-up shanghaïenne NIO au nom emblématique Blue Sky Coming. Easy Zhu, chef du marketing.
Notre modèle offrira les mêmes atouts que le modèle X de Tesla, mais il sera moitié moins cher. Les constructeurs chinois poussent comme des champignons après la pluie. Le marché est très concurrentiel, mais nous sommes capables de devenir l'un des géants de l'automobile.
Appâté par de généreuses subventions, le marché de l'électrique explose en Chine avec un bond de 53% l'an dernier. En retard sur le moteur à combustion, les Chinois comptent écarter la concurrence mondiale dans ce secteur d'avenir. Tui Dongshu, secrétaire général de l'influente association automobile.
La Chine détient une part de 50% dans le marché mondial. Nous avons d'énormes capacités financières pour soutenir ce secteur. Cela permet de réorienter notre économie vers des industries novatrices et de combattre la pollution de l'air dans les villes.
Pourtant, sur les 28 millions de voitures vendues l'an dernier ici, à peine 2% sont propres. La Chine a donc décidé de forcer la main aux constructeurs et impose des quotas. 10% de tous les véhicules vendus devront être électriques ou hybrides à partir de 2019. Volkswagen, le numéro 1 en Chine avec 4 millions de ventes l'an dernier, met les bouchées doubles pour y arriver. Le porte-parole Christoph Ludewig.
Wir werden in den nächsten 2 bis 3 Jahren 15 neue lokale Dans les 2 à 3 ans à venir, nous allons introduire 15 nouveaux modèles sur le marché chinois. La production locale de notre Audi A6L e-tron a déjà démarré. En plus, nous allons créer une co-entreprise avec le constructeur chinois JAC pour développer un modèle purement électrique. À partir de 2020, nous voulons livrer 400 000 véhicules à énergie nouvelle à nos clients et 1 500 000 en 2025.
Renault, Nissan aussi gonflera son offre. Cet été, le groupe a créé la co-entreprise EGT avec le chinois Dongfeng. Les premières voitures, petites, électriques et hyper connectées, devraient sortir des chaînes de montage en 2019. Reste à convaincre les clients encore dubitatifs comme M. Sun.
La batterie a peu d'autonomie et c'est lent à recharger. À l'intérieur du sixième périphérique, il y a beaucoup de bornes de recharge, mais quand je suis chez moi, je dois tirer une rallonge et la passer par la fenêtre. Et tu ne peux pas trop sortir de Pékin, car si tu vas loin, il n'y a que des stations à essence, mais pas de bornes de recharge.
La Chine n'est pas encore à la hauteur des défis qu'elle se lance, raison pour laquelle l'Allemagne a bataillé ferme pour pousser Pékin à retarder l'échéance. Initialement prévue pour 2018, les quotas entreront finalement en vigueur un an plus tard.
Un reportage signé Heike Schmidt à Pékin. Marie-Françoise Renard, qu'est-ce que ça nous dit ce reportage? Est-ce que le marché chinois est un marché très ouvert à la concurrence internationale ou pas?
Il n'est pas très ouvert à la concurrence internationale, mais ce reportage est très intéressant parce qu'on voit d'une part la contrainte environnementale en Chine. La situation de l'environnement est épouvantable, donc il y a une pression de la population pour que le gouvernement fasse quelque chose. Et donc le fait de développer les voitures électriques est un des moyens de lutter contre la pollution. Mais il y a un deuxième aspect qui est le fait que la Chine doit investir dans la technologie, monter en gamme dans ses produits, et que comme il est très difficile de faire du rattrapage technologique, eh bien, il est plus efficace de se situer sur des créneaux dans lesquels les autres pays ne sont pas trop en avance. Donc la Chine investit depuis longtemps dans la voiture électrique pour avoir, elle n'aura pas un monopole évidemment, mais pour avoir une position quand même relativement privilégiée avec un immense marché intérieur. Mais ça souligne aussi les difficultés de la fourniture d'électricité, etc. Donc il y a souvent en Chine un décalage, entre, notamment en matière d'innovation, entre ce qui est annoncé, ce qu'on va faire et puis ce qu'il est possible de faire. On l'a vu pour l'avion qui a été construit, qui a mis beaucoup de temps à démarrer, qui n'a pas encore les autorisations des compagnies internationales. Donc il y a beaucoup d'efforts qui sont faits sur ces investissements technologiques. Après, il faut un petit peu de temps pour que ça devienne véritablement dans la consommation.
Éric Girardin, ce que dit Marie-Françoise Renard tranche un peu avec l'image qu'on a d'une Chine absolument conquérante dans les domaines technologiques, d'innovation. La Chine a du mal sur ces terrains-là?
Avant de répondre à votre question, je voudrais réagir à ce qu'elle a dit. Parce que, effectivement, on dit il faut que les ménages chinois achètent des voitures électriques, mais c'est un petit peu déplacer le problème. Comment va-t-on produire l'électricité? Aujourd'hui, les 3/4 de l'électricité en Chine est faite avec du charbon. Donc, ils sont très en avance sur les investissements à la marge dans les énergies renouvelables, mais c'est à la marge. Et donc, ça veut dire que si effectivement les Chinois se mettaient à acheter massivement des véhicules électriques, il y aurait une pollution due à la production d'électricité, et du coup, on ne va pas beaucoup avancer.
Pour répondre à la question que je vous posais, les Chinois, en matière d'innovation, sont un peu en retard, ils ont du mal?
Les Chinois rattrapent très vite. Au niveau des dépôts de brevets, par exemple, ils ont des positions tout à fait impressionnantes.
Il y a beaucoup de dépôts de brevets, mais ce ne sont pas des brevets qui sont beaucoup cités. Ce qui compte, c'est les citations des brevets, c'est-à-dire les utilisations qui en sont faites. Pour l'instant, il y a effectivement beaucoup d'efforts qui sont faits en matière de technologie, beaucoup de brevets déposés, pas encore vraiment une utilisation comparable à celle des pays développés.
Ben, Norton, les brevets chinois font peur aux entreprises américaines?
Ah oui, oui, certainement. Mais il faut aussi constater que le gouvernement chinois a dépensé beaucoup, beaucoup d'argent pour soutenir ces nouvelles industries. On estime que le gouvernement chinois a dépensé 100 milliards d'euros sur les véhicules électriques. Et c'est beaucoup, beaucoup d'argent et c'est un immense gaspillage aussi. Puisque alors qu'il y a quelques compagnies qui ont réussi, mais il y en a beaucoup, beaucoup qui n'ont pas réussi.
Eh bien, nous continuerons cette discussion dans la deuxième partie de Éco d'ici, Éco d'ailleurs, après un flash d'actualité. À tout de suite.
Éco d'ici, Éco d'ailleurs, sur RFI.
Thank you.
Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour la deuxième partie de cet Écho d'ici, écho d'ailleurs, enregistré dans les locaux de l'Université Clermont-Auvergne à Clermont-Ferrand. L'Université Clermont-Auvergne est associée à l'Université Fudan à Shanghai pour organiser une 11e conférence internationale sur l'économie chinoise, conférence intitulée « La nouvelle croissance normale et l'avenir de l'économie chinoise ». Au cours de la première partie de cette émission, nous avons vu ce que c'était que cette croissance normale, quelle était la politique économique du président Xi Jinping, tout cela avec trois invités, Barry Norton de l'Université San Diego en Californie, Éric Girardin de l'Université Aix-Marseille et Marie-Françoise Renard de l'Université Clermont-Auvergne, l'une des organisatrices de cette conférence qui coïncide avec le 19e congrès du Parti communiste chinois en ce moment à Pékin. Nous évoquions dans la première partie le poids de l'État dans la politique industrielle du pays, Marie-Françoise Renard. Est-ce que c'est aussi le cas dans le secteur financier ? Est-ce que l'État est très présent dans le secteur financier ?
Oui, l'État est très présent dans le secteur financier. Les grandes banques sont des banques publiques. Et pour l'instant, le secteur financier n'est pas très ouvert. La concurrence commence à apparaître. On a autorisé, bien sûr, des banques étrangères, etc. Mais c'est un secteur dans lequel l'État est très, très présent. Et il y a un certain nombre de distorsions qui sont assez graves pour l'économie, puisque les entreprises publiques sont favorisées dans l'accès au crédit par rapport aux entreprises privées. Elles ont accès à des crédits facilement et bon marché, ce qui n'est pas le cas pour les entreprises privées, et ce qui a entraîné ce qu'on appelle le shadow banking, cette finance de l'ombre, donc ces circuits parallèles pour prêter aux entreprises privées, encore une fois parce qu'il y a une forte distorsion en faveur du secteur public.
Éric Girardin, cette force de l'État dans l'économie financière chinoise, c'est préjudiciable au développement de cette économie de marché socialiste ou communiste que veut Xi Jinping ?
Non, ça n'a pas été forcément préjudiciable dans le passé. Et d'ailleurs, quand on regarde l'histoire du système financier chinois depuis le début des années 80, on voit qu'en fait, les réformes financières ont été conçues pour trouver des sources de financement successives à l'économie. Quand on regarde l'ensemble des réformes, il y a une logique, qui est peut-être une logique a posteriori, mais on trouve que finalement, ils ont d'abord... créer des banques qui n'existaient pas avant. Marie-Françoise a parlé des banques, elles ont été créées en 1984. Avant, il n'y avait qu'une seule banque qui confondait les fonctions de banque d'État et de banque centrale et de banque commerciale. Ensuite, ils ont, en 1990, créé la bourse. Pourquoi créer la bourse ? Ben pour des raisons qui nous échappent un petit peu. Ils ont en fait créé la bourse, non pas pour donner la propriété des actions des entreprises aux acheteurs, aux actionnaires, mais pour récompenser les entreprises d'État, certaines. Donc il y a vraiment quelque chose qui est assez difficile pour des observateurs occidentaux à suivre.
Barry Norton, vous avez aussi cette difficulté à comprendre la logique interne de ce que font ces dirigeants chinois en matière financière ?
Oui, alors, mais je pense que c'est une façon, c'est ce que nous avons la difficulté, mais aussi c'est que il y a des espoirs des réformateurs qui ont été déçus. Et surtout sur le plan des marchés de capitaux. Qu'ils ont vouloir un marché de capital qui est très formidable, qui est bon santé et bon fonctionnaire. Et on n'a pas réussi.
C'est-à-dire, Éric Girardin, qu'il n'y a pas une logique du premier jour jusqu'à aujourd'hui, mais des tentatives avortées, contestées de l'intérieur.
Il y a eu, effectivement, encore, par exemple, quelque chose qui est très parlant dans nos économies. Il y a un marché d'obligations d'État. Les individus, les ménages peuvent acheter des obligations d'État. Ça n'existe pas en Chine. Parce qu'il y a eu des dérapages au début des années 90 et ces marchés ont simplement été fermés. Et l'autre chose très importante, c'est que on a beaucoup parlé d'une bulle dans le marché boursier chinois en 2015. En fait, cette bulle a été quasiment pilotée, encouragée par l'État, qui a dit, en gros, si vous êtes bon citoyen, achetez des actions. Et puis, au mois de juin 2015, ils ont écrasé la bulle. Donc là, effectivement, les gens qui avaient acheté les actions ont eu un petit peu l'impression d'avoir été trompés.
C'est pas ils ont perdu beaucoup d'argent.
C'est assez discuté. On considère qu'en fait, ceux qui ont perdu de l'argent, c'est les gros investisseurs. C'est pas les petits. Les petits, de toute façon, en perdent tout le temps. Sur le marché boursier chinois, les petits investisseurs, en règle générale, perdent de l'argent.
Marie-Françoise Renard, les agences de notation Moody's et Standard & Poor's ont réduit la note de la dette publique chinoise. Est-ce qu'on est à la veille d'une crise de la dette dans ce pays ?
Apparemment, d'après le point de vue du Fonds monétaire et d'un certain nombre de travaux, il semble pas qu'on soit à la veille d'une crise ou d'une crise systémique, notamment parce que le gouvernement a un pouvoir d'action qui est très important. Mais ce qui a inquiété les agences de notation, c'est l'endettement croissant de la Chine, notamment d'un certain nombre d'entreprises privées, et puis l'importance du shadow banking. L'endettement de la Chine, il est plutôt moins important que celui de beaucoup de pays, mais il y a toute cette finance de l'ombre qui fait peser un risque puisqu'on ne connaît pas bien cet endettement. Alors, il est impératif pour le gouvernement de régler cette question, ce qu'il a commencé à faire, notamment au niveau des gouvernements locaux, qui avaient emprunté en donnant comme garantie des terres, etc., ce qui est un système spéculatif dangereux. Donc le gouvernement a arrêté ça et je pense qu'il a les moyens d'éviter qu'il y ait une crise financière. Mais il faudra petit à petit assainir ses finances publiques.
On a quand même l'impression que c'est un peu un grand foutoir que tout le monde prête un peu à tout le monde et que les pouvoirs régionaux ont la capacité de s'endetter très fortement.
Oui, alors ils n'ont pas le droit, mais ils l'ont pris en créant des véhicules intermédiaires de façon à pouvoir emprunter. Alors c'est une situation qui est aussi un peu confuse parce que en 2007, au moment de la crise financière, l'État a investi beaucoup d'argent pour éviter qu'il y ait une récession, et il a incité les gouvernements locaux à dépenser de l'argent, à construire des infrastructures, des bâtiments, etc. Et ensuite, les gouverneurs locaux étaient encouragés dans leur carrière, récompensés, etc., en fonction de la croissance de leur province et des investissements qui étaient faits. Donc on les a encouragés à faire de la croissance, à faire des investissements et à s'endetter s'ils n'avaient pas assez d'argent, parce que les gouvernements locaux ont la responsabilité de plus en plus de dépenses. Mais ils n'ont pas la montée des recettes qui serait nécessaire.
Voilà,
exactement. Et donc, évidemment, ils se sont endettés, mais ils ont été incités à le faire. Et maintenant, c'est allé un peu trop loin. Et donc, il faut régler cette question.
Mary Norton.
Oui, je suis d'accord avec l'analyse de Marie-Françoise. Au bout, on n'a pas réussi à réformer le système des revenus des gouvernements locaux. Et ça implique que le système de finances de l'ombre a continué à aider les gouvernements locaux.
Ce shadow banking, Marie-Françoise Renard, d'où vient-il ? Qui sont les acteurs de ce shadow banking ?
Des particuliers, des entreprises privées, des investisseurs, tout un tas d'individus, d'agents économiques qui font des prêts risqués mais rémunérateurs.
Est-ce qu'on est à la veille d'une crise bancaire en Chine ? Est-ce qu'on parlait tout à l'heure d'une crise de la dette, vous disiez non. Les banques, est-ce qu'elles sont saines ?
Alors, je crois qu'il y a eu une amélioration de la situation des banques parce que là encore, le gouvernement craignait des problèmes et donc on a amélioré la gestion bancaire. Il y a eu en Chine, je pense qu'on le sous-estime beaucoup, aussi bien pour les banques que pour les entreprises, il y avait une très mauvaise connaissance de ce qu'était la gestion, de ce qu'était le marketing, etc. Et donc, il y a eu beaucoup d'erreurs de gestion qui ont été commises par manque d'expérience. Le gouvernement a fait un effort vraiment pour essayer de redresser la situation des banques. Je ne suis pas devin, mais je ne pense pas qu'on soit à la veille d'une crise bancaire en Chine.
Alors, je vais vous faire entendre quelqu'un qui a un avis un peu divergent de vous, qui est Jean-François Dufour, auteur d'une brochure intitulée « Chine, le paradoxe des réformes ». Jean-François Dufour est consultant chez Monsalvi Consulting. Il fréquente la Chine depuis très longtemps. Et à ses yeux, on va peut-être assister à une crise bancaire dans les mois qui viennent. On l'écoute.
Il y a un risque qui peut survenir et qui surviendra probablement après le 19e congrès sur de petits établissements. C'est-à-dire que pour essayer quand même de contrôler les dérives du système bancaire, il est très probable que des exemples soient faits, que des faillites soient enregistrées afin de fixer des limites. Par contre, il n'y a aujourd'hui pas de risque sur les gros établissements qui jouent un rôle structurel pour le fonctionnement de l'économie chinoise.
À quelles dérives faites-vous allusion ?
Alors les dérives classiques dans le système chinois, c'est le surfinancement de projets dont la viabilité économique est très douteuse pour des raisons diverses qui peuvent être la volonté de soutenir des entreprises locales en difficulté, qui peuvent être des projets qui sont très bien vendus mais dont la viabilité économique est extrêmement douteuse. Et donc c'est là l'essentiel des dérives, c'est le financement d'activités qui en fait n'ont pas de viabilité à terme.
Éric Girardin, ces banques chinoises, d'après Jean-François Dufour, vont subir une purge ?
Vous en pensez ? Qu'il faut être prudent, parce que il faut bien voir que la finance de l'ombre, c'est quoi ? C'est une désintermédiation. C'est-à-dire qu'on court-circuite les banques pour mettre en contact les gens qui ont des capitaux à placer et ceux qui veulent les emprunter. Donc ça, par définition, ça échappe aux banques. Maintenant, de manière structurelle dans le système bancaire chinois, qui a des excédents de liquidité ? Ce sont les grandes banques d'État. Alors, elles sont censées légalement les prêter aux entreprises, etc. Mais quand on discute avec les praticiens des marchés financiers, ils vous disent qu'en fait, ces fonds finissent bien par arriver là où ils ne devraient pas arriver. Donc, il n'est pas certain que cette finance de l'ombre soit totalement autonome. Est-ce qu'elle n'obtient pas le gros de ses financements des excédents structurels de liquidité des banques d'État, qui sont simplement dus au fait que les banques d'État reçoivent la majorité des dépôts bancaires et ne prêtent pas autant qu'elles le devraient, du coup, elles ont ces excédents.
Barry Norton, c'est le Parti communiste, l'État, qui est l'auteur de cette banque de l'ombre, de ce shadow banking, oui?
Oui, je crois bien, puisque c'était bien les banques d'État qui ont les finances et aussi la motivation pour attirer plus de capitaux des citoyens moyens. Puisque les citoyens moyens n'ont pas beaucoup d'objets pour investir. Le marché des capitaux, c'est pas très effectif. On a perdu d'argent. Il reste seulement des produits de la finance de l'ombre et le marché d'immobilier. Alors, pour la famille moyenne, ils investissent surtout sur le marché d'immobilier.
Oui, Marie-Françoise Renard.
Je voudrais revenir sur ce qui a été dit sur les banques. Je crois qu'effectivement, les petites banques ont financé des mauvais projets. Ça peut être pour des raisons politiques, etc. Et peut-être qu'effectivement, elles seront assainies, ce qui n'est pas une crise bancaire. Hein. Oui. C'est pas la même chose. Effectivement.
C'est une purge.
Oui, on peut dire comme ça, mais on peut dire aussi pour un économiste, ça peut être aussi une façon d'améliorer l'efficacité bancaire en éliminant les moins efficaces. Mais effectivement, il y a un problème de choix de placement. Et donc, comme cela a été dit, les banques d'État vont essayer de gagner plus d'argent en participant en douce, on pourrait dire, à cette finance de l'ombre. Et puis, les particuliers ont parfois des difficultés pour savoir où investir leur argent. Et pour diverses raisons, c'est pour ça qu'ils ont beaucoup choisi le marché immobilier, mais beaucoup de ces placements officiels dans les banques, etc., ne sont pas du tout rentables. Donc, ils vont chercher autre chose.
Alors, c'est Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI. Nous sommes à l'Université Clermont-Auvergne, à Clermont-Ferrand, pour parler de l'économie chinoise avec trois invités. Marie-Françoise Renard, responsable de l'Institut de recherche sur l'économie chinoise ici, à l'Université Clermont-Auvergne. Éric Girardin, professeur d'économie à Aix-Marseille. Et Barry Norton, qui vient, lui, de l'Université San Diego, en Californie. L'un des leitmotifs concernant l'économie chinoise ces dernières années, c'est qu'elle devait réussir son atterrissage en douceur, c'est-à-dire passer d'une croissance de 10% et plus à moins. Lors de ces assemblées générales à Washington, il y a une dizaine de jours, le FMI, la Banque mondiale, s'en sont inquiétés. Est-ce que la Chine a réussi son atterrissage en douceur ? Est-ce qu'il est en cours ? Est-ce qu'il a eu lieu, Marie-Françoise Renard ?
Pour l'instant, on peut dire que la Chine a réussi. Il y a quelques années, tout le monde, enfin beaucoup de gens pensaient qu'il risquait d'y avoir un effondrement de la Chine. Il faut voir que une économie comme l'économie chinoise, mais ça a été le cas d'autres pays, qui a un grand rattrapage à faire, qui fait des réformes importantes, il est normal qu'elle ait un taux de croissance qui soit élevé au départ. C'est une logique de rattrapage et il est logique aussi que ce taux de croissance diminue par la suite. La difficulté actuelle pour la Chine, c'est que comme, ce que je vous disais tout à l'heure, elle est dans un revenu intermédiaire, elle doit faire des réformes pour améliorer la qualité de sa croissance. C'est pour ça qu'on parle de nouvelle normalité. On insiste sur la qualité de la croissance, sur la répartition des revenus, et donc sur l'environnement, la qualité de l'environnement, la qualité des institutions, l'amélioration de la technologie, etc. Donc les enjeux pour la Chine maintenant, c'est des enjeux de cet ordre-là, pour continuer à avoir de la croissance en n'étant plus un pays pauvre en développement, mais en étant un pays à revenu intermédiaire. Mais c'est normal que son taux de croissance ait diminué.
Éric Girardin, l'atterrissage en douceur, il s'est fait, il se fait ?
Ce n'est pas une question à laquelle on peut facilement répondre, parce que, comme dans beaucoup de domaines, dans le cas chinois, les statistiques sont d'une qualité douteuse. Pour donner une illustration, si vous voulez savoir à la fin 2017 quelle a été la croissance en 2017, il vous suffit sans doute de regarder quel était l'objectif à la fin 2016. Et vous ne serez pas très loin de ce qu'on va nous annoncer à la fin de l'année. Donc il y a certainement un problème. C'est quelque chose qui n'est pas possible. Pour vous donner un autre exemple, les instituts de statistiques font toujours des évaluations provisoires de la croissance et ensuite les révisent. Dans nos pays, on révise à la hausse ou à la baisse. Dans le cas chinois, c'est toujours révisé à la hausse. Donc là, il y a quand même des choses qui montrent qu'il y a un problème. Troisièmement, les observateurs internationaux s'accordent aujourd'hui pour dire que les données macroéconomiques chinoises ne sont pas fiables. Le problème, c'est qu'ils ne s'accordent là-dessus que depuis peu de temps. Et ces données ne sont pas fiables depuis sans doute 35 ou 40 ans. Et du coup, pour répondre à votre question, si on regarde des données corrigées, eh bien, cet atterrissage en douceur, il y a deux solutions. Soit c'est un ralentissement très fort, une stagnation, soit c'est un retour à une croissance soutenable par rapport au taux de croissance très élevé antérieur. Les chiffres les plus récents qu'on a sur les évolutions macroéconomiques impliquent que c'est plutôt une stagnation actuellement qu'un retour à une croissance durable.
L'économie chinoise stagne, Barry Norton, selon vous ?
À mon avis, elle continue à développer, mais on voit très clairement que, alors que le taux de croissance est ralenti, mais le gouvernement chinois continue à investir beaucoup, beaucoup d'argent. Alors l'efficacité de l'investissement a tombé. Alors il faut constater que le gouvernement chinois n'a pas encore fait la transition à une croissance durable et soutenable.
C'est-à-dire, Marie-Françoise Renard, que les efforts de transition vers les énergies renouvelables, etc., sont l'axe central qui doit être emprunté par le gouvernement chinois.
C'est un des axes importants, mais on en est vraiment au début, c'est-à-dire on en est encore aux intentions, aux investissements. Pour l'instant, ça n'est pas le mode de fonctionnement de l'économie chinoise.
Alors pour réorienter son économie, la Chine doit trouver d'autres secteurs de croissance, c'est ce qu'on est en train de dire. Et pour cela, le pouvoir chinois compte beaucoup sur le numérique, sur le digital. D'après un livre blanc publié par Pékin, d'ici 2030, l'économie numérique devrait représenter plus de la moitié du produit intérieur brut chinois. Pour favoriser l'innovation, deux programmes gouvernementaux ont été lancés, Made in China 2025 et Internet Plus. Et les villes aussi sont très actives. Pékin, mais aussi Shanghai, notamment, compte de nombreuses start-up qui se consacrent au numérique. C'est un reportage Éco d'ici Éco d'ailleurs, signé Angélique Forget à Shanghai.
À l'entrée de la start-up qu'il dirige, c'est en tong et Bermuda que Jing Tianwei nous reçoit.
Hey, our office is inside.
Nos bureaux sont à l'intérieur.
About 50 employees.
On a 50 employés. Ils sont tous ici, le long de cette allée.
Over there, along that row, I guess.
Ce jeune homme de 28 ans développe des plateformes qui permettent de créer des objets connectés. L'entrepreneur a étudié aux États-Unis, mais c'est en Chine qu'il a voulu se lancer, par patriotisme, mais aussi parce que le gouvernement a mis en place un environnement fiscal et réglementaire favorable aux start-up.
Les politiques sont différentes en fonction des régions et de leurs gouvernements, mais je ne sais pas, par exemple, ici à Shanghai, si vous lancez un business dans les technologies ou Internet, vous pouvez demander des réductions de charges et aussi des subventions qui vous permettent, par exemple, de payer le loyer.
La start-up de Tianwei se situe au 7e étage d'un des nombreux immeubles qui composent le parc technologique de Jiangjiang, surnommé la Silicon Valley de Shanghai. C'est ici aussi que travaille Gloria Xu, 32 ans. Entre deux réunions, elle s'accorde une pause café. La jeune femme a cofondé une entreprise qui fabrique des boîtiers Bluetooth capables d'interagir avec des smartphones. Elle se félicite de voir la Chine se tourner vers le numérique. Pour elle, c'est la réussite de géants de l'Internet chinois qui crée cette dynamique.
Il y a Baidu qui est un moteur de recherche qui ressemble à Google et qui s'oriente désormais vers l'intelligence artificielle et qui aussi crée des voitures sans conducteur. Et puis il y a Alibaba qui est un site de e-commerce et qui fait maintenant du cloud computing. Et on a Tencent aussi qui offre des services de messagerie instantanée et qui se développe maintenant dans les jeux vidéo et les applications mobiles de messagerie. Toutes ces réussites offrent un bon environnement pour les startups en Chine. Ces géants sont pour nous des exemples à suivre.
À l'extérieur du café, Li Zhongshan fume une cigarette en attendant de passer un entretien d'embauche.
Je suis content de voir que de nouveaux secteurs apparaissent. Avant, on parlait de Made in China, et maintenant, on parle davantage de Create in China. Ça prouve que notre pays devient plus puissant, et en tant que Chinois, je suis fier de ça, que nos entreprises s'orientent vers la high-tech et l'innovation.
L'ambition numérique de la Chine ne devrait pas s'arrêter là. Rien qu'à Shanghai, les autorités se sont lancé le défi d'abriter prochainement 200 000 startups.
Un reportage signé Angélique Forget à Shanghai. Éric Girardin, qu'est-ce qu'il vous dit ce reportage sur la nouvelle économie chinoise ? Est-ce qu'elle est vraiment extrêmement puissante aujourd'hui ?
Je crois que je vais illustrer avec une présentation qui a été faite hier par un professeur de l'université Fudan à Shanghai, qui est co-organisateur de notre conférence. Il nous a dit... Il y a effectivement une réorientation de l'économie vers le secteur des services, mais l'emploi dans les services n'augmente pas. Et l'une des explications qui a été proposée, c'est de dire que justement, le commerce en ligne se développe en Chine d'une manière incroyable, c'est le premier au monde, et évidemment, le contenu en emploi de ce commerce en ligne est évidemment beaucoup plus faible que les autres types de... d'activités de service. Donc il y a peut-être ici à la fois un élément d'optimisme qui apparaissait dans ce reportage. Les activités se développent, mais contrairement à ce que voudrait l'État, ça n'entraîne pas des créations d'emplois.
Marie-Françoise Renard, vous me glissiez au début du reportage quand on entendait ce start-upper dire qu'il avait étudié aux États-Unis mais qu'il avait voulu revenir créer son entreprise en Chine, que ça c'était très important.
Oui, c'est très important et le développement de ce commerce est très important. Le e-commerce a explosé en Chine, y compris dans les zones rurales. Et il n'est pas rare maintenant de voir un restaurateur qui refuse un paiement soit par carte bleue, soit par liquide, qui veut seulement un paiement par téléphone, directement par contact. Et le problème pour l'économie chinoise, c'est que l'enjeu, c'est de créer des emplois. Ça va être un des grands enjeux de l'économie chinoise. Et que c'est un secteur qui est peu créateur d'emplois. Mais c'est un secteur extrêmement développé en Chine. Le partage des vélos, de l'utilisation de vélos, etc. La technologie s'est énormément améliorée. Et tous les Chinois utilisent ça, y compris des gens qui ne sont pas très riches, y compris des gens qui sont dans des zones éloignées dans les campagnes. Tout le monde utilise le e-commerce.
Barry Norton.
Oui, et il s'agit d'une situation dont le gouvernement a entrepris plusieurs tentatives de l'investissement. Et il y en a beaucoup qui vont réussir, mais il y a aussi des autres qui ne peuvent pas réussir. Et ce qui est difficile pour l'avenir, c'est déterminer comment le gouvernement chinois va améliorer les mauvais aspects des investissements qui n'ont pas réussi.
Est-ce que c'est important pour le reste du monde ce qui se passe en Chine, Marie-Françoise ?
Sûr, c'est très important. D'abord, les pays d'Asie et la Chine en premier ont tiré la croissance chinoise. La Chine est un débouché extrêmement important pour toutes les entreprises dans le monde entier. Et compte tenu de la taille du pays, évidemment, c'est très important. C'est important aussi du point de vue plus politique pour la gouvernance mondiale, etc. Mais du point de vue strictement économique, bien sûr, c'est important.
Marie Norton ?
Il y aura une nouvelle étape de compétition entre les nouvelles industries de Chine et les industries que nous, dans les économies déjà développées, aussi, nous pensons que c'est aussi pour nous aussi les industries dans lesquelles notre avenir est fondé.
Quand vous dites nous, de qui parlez-vous ? Nous, c'est qui ?
Nous, c'est la France, les États-Unis.
Les pays occidentaux.
Ouais.
Éric Girardin, est-ce que la Chine regarde uniquement vers l'avenir ou elle se place dans une perspective à plus long terme, historique, en regardant d'où elle vient ?
Alors, la Chine, elle, se place vers l'avenir, mais pour comprendre ce qui se passe en Chine, il est bon de repartir en arrière. Effectivement, c'est là que, quand on parle d'un potentiel de croissance de la Chine, on ne peut pas avoir juste regardé quelques années en arrière. On doit regarder à la fois... avec une grande perspective historique sur un siècle et demi, et aussi en regardant des économies comparables et voisines qui ont peut-être connu une expérience comparable. On connaît l'exemple du Japon, qui est en stagnation depuis au moins 25 ans. C'est lié à ce qu'on discutait tout à l'heure. Est-ce que la Chine est susceptible de retomber dans les mêmes travers ? Et ça, c'est lié aux autres aspects qu'on discutait aussi, les crises financières, la fragilité. Tous ces aspects-là vont ensemble et l'histoire est absolument essentielle pour apporter des éclairages sur ce sujet.
Marie-Françoise Renard, pour ce qui sera le mot de la fin.
Le président actuel sait très bien utiliser le nationalisme des Chinois et le valoriser pour rappeler que la Chine a été une très grande puissance, que beaucoup d'inventions sont chinoises. Et je crois que, par exemple, l'exposition universelle de Shanghai a été un moyen de montrer au reste du monde,
en 2010,
c'était un moyen de montrer au reste du monde ce qu'était devenue la Chine dans une ville qui était un comptoir colonisé pour la Chine, pour les Chinois. Et c'est une revanche. Et je pense que l'histoire est très importante dans l'imaginaire chinois.
Et qu'ils essayent de revenir sur
Ça permet de valoriser la Chine, ça permet aux autorités politiques de dire nous avons été une grande puissance, nous avons le potentiel pour être une grande puissance et nous sommes en train de redevenir une très grande puissance.
Écho d'ici, écho d'ailleurs est maintenant terminé. Merci à l'Université Clermont-Auvergne de nous avoir accueillis. Merci à vous trois, Marie-Françoise Renard, Barry Norton, Éric Girardin, d'avoir accepté cette invitation. Guillaume Munier a réalisé et mis en onde cette émission et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs sur RFI.